Les infos de ce 10 novembre avec Sophie Tussaud et Bernard Poirette.
Et le premier journal donc de cette tranche avec Sophie Tussaud que je rencontre. Bonjour Sophie.
Bonjour Bernard, bonjour à tous.
À la une de votre journal ce matin.
Tout le gratin politique réuni à Paris pour commémorer le centenaire de l'armistice de la Première Guerre mondiale ce week-end. Et la rencontre entre Donald Trump et Emmanuel Macron s'annonce délicate. Une marche organisée cet après-midi à Marseille en hommage aux 8 victimes de l'effondrement des immeubles de la rue d'Aubagne. Et puis le pari fou d'un retraité qui s'apprête à traverser l'Atlantique dans un tonneau.
Europe 1. Les commémorations du 11 novembre débutent aujourd'hui sous très haute sécurité dans la capitale. Plus de 60 chefs d'État et de gouvernement sont attendus au cours du week-end à Paris.
Deux jours d'hommage et de souvenirs pour marquer le centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale. Parmi les invités, Angela Merkel, Theresa May, Vladimir Poutine ou encore Donald Trump. Donald Trump qui a donné le ton de sa visite dès son arrivée sur le tarmac d'Orly hier soir. Dans un tweet, le président américain a jugé très insultant les propos d'Emmanuel Macron sur la création d'une armée européenne. C'était cette semaine sur Europe 1. Une sortie alors que les deux chefs d'État doivent se rencontrer à 11h ce matin à l'Élysée. Adrien Beck.
Comme toujours, c'est sur son réseau social préféré que Donald Trump a donné le ton à peine arrivé à Paris. Sur Twitter, le président américain a jugé très insultant les propos d'Emmanuel Macron, appelant selon lui l'Europe à créer une armée pour se protéger des États-Unis. C'était mardi matin sur Europe 1.
Nous devons nous protéger à l'égard de la Chine, de la Russie et même des États-Unis d'Amérique. Quand je vois le président Trump annoncé il y a quelques semaines le fait qu'il sorte d'un grand traité de désarmement. Qui en est la victime principale? L'Europe et sa sécurité.
Sauf que ce n'est que quelques minutes après qu'Emmanuel Macron appelle à la création d'une armée européenne. Le lien entre les deux propos du chef de l'État n'est pas clair, mais c'est le raccourci que Donald Trump a choisi d'utiliser. Les deux présidents auront sans doute l'occasion de s'en expliquer ce matin à l'Élysée, mais rapidement, car Donald Trump consacrera une bonne partie de son week-end en France à visiter deux cimetières américains. Il boudera d'ailleurs le Forum pour la paix demain après-midi à Paris. Nouvelle preuve que la lune de miel Macron-Trump est bel et bien terminée.
Adrien Beck du service politique d'Europe 1. Les commémorations du centenaire de l'armistice passent inévitablement par Rotonde. C'est dans la forêt de Compiègne en Picardie que le maréchal Foch signait avec les officiers allemands la fin de la Première Guerre mondiale. Ce sera la photo du jour. Angela Merkel et Emmanuel Macron retrouvent ensemble cet après-midi à 15h30 dans la clairière de Rotonde, lieu chargé d'histoire. Jean-Gabriel Bourgeois est allé sur place pour Europe 1.
Il ne reste plus que les rails du chemin de fer dans cette clairière de la forêt de Compiègne. Le wagon dans lequel a été signé l'armistice entre la France et l'Allemagne, ou plus précisément une réplique de ce wagon, se trouve dans le musée juste à côté. C'est là que vont se retrouver Emmanuel Macron et Angela Merkel, à l'endroit même où a été scellée la paix, dans ce wagon transformé en bureau. Jean-Jacques Leca est le maire de Rotonde.
Ce wagon, il est constitué d'une table où s'est déroulée cette signature avec l'ensemble des maréchaux français et des officiers allemands qui se sont concertés pendant plusieurs jours pour élaborer ce document de l'armistice qui a donc été signé à l'intérieur de ce wagon.
Un wagon symbole de la relation franco-allemande qui attire les touristes du monde entier. Jean-Pierre vient de Belgique.
Allemands et Français se sont réconciliés. Un autre exemple qui me vient en tête, c'est Mitterrand et Kohl. Ça renforce la conviction que grâce à l'Europe, eh bien, au moins, nous a donné une période de paix inespérée. Eh bien, espérons que ça relancera un peu de flamme à cette Europe qui en a bien besoin.
Tout à l'heure, Angela Merkel et Emmanuel Macron signeront le livre d'or de l'armistice, 100 ans après le maréchal Foch. Rotonde, Jean-Gabriel Bourgeois, Europe 1.
Et au terme de cette première journée de commémoration, un dîner officiel est prévu ce soir au musée d'Orsay. Par ailleurs, Marseille. Marseille va se recueillir cet après-midi. Une marche blanche est prévue à 15h. En hommage aux victimes de l'effondrement en début de semaine de deux immeubles en plein centre-ville, rue d'Aubagne.
Le rassemblement aura lieu à quelques mètres des débris alors que le corps d'une huitième victime, celui d'une femme, a été découvert hier sous les décombres. Des riverains de ce quartier de Noailles avaient plusieurs fois alerté de l'insalubrité de leur logement. Entre colère et incompréhension, Nathalie Chevance les a rencontrés avant la marche.
Dans le petit local associatif au cœur du quartier de Noailles, les riverains se bousculent pour déposer des sacs de vêtements, de chaussures pour les sinistrés de la rue d'Aubagne, ceux qui ont dû quitter les lieux précipitamment parce que leur immeuble est menacé de péril. Le traumatisme reste palpable. Zoubida, soutenue par une béquille, participera tout à l'heure à la marche blanche.
J'aurais pu y être. Et j'aurais pu passer avec les enfants pour aller à l'école. C'est le trajet où je passais. Ça aurait pu nous arriver à nous aussi. On pense aux familles, on pense aux gens qui sont décédés. C'est affreux. Ça aurait jamais dû arriver.
Tristesse, compassion pour les victimes, pour la dignité, voilà le sens de cette marche. Mais Afida, mère de famille, ne peut s'empêcher d'exprimer sa colère qu'elle essaiera de contenir cet après-midi.
Surtout, c'est de la rage que j'ai parce que ça fait des années qu'on crie à l'alerte et personne ne nous a écoutés. Parce que on habite à Noailles, c'est le lieu caché de la misère. Mais à l'intérieur, tout est pourri. Les personnes responsables, qu'elles assument. Parce qu'il y a eu des morts, des familles déchirées. Trouvez ça normal ?
Une quinzaine d'immeubles dans le secteur de la rue d'Aubagne ont été vidés de leurs occupants en attendant le rapport des experts venus de Paris, mandatés par le gouvernement. Marseille, Nathalie Chevance, Europe 1.
À l'étranger, aux États-Unis, quelques mois à peine après les terribles incendies de cet été, la Californie est de nouveau ravagée par les flammes. Trois foyers ont entraîné l'évacuation de plusieurs dizaines de milliers d'habitants. Au moins 9 personnes sont mortes, pour la plupart piégées dans leur voiture alors qu'elles tentaient de s'enfuir. À Malibu, célèbre cité balnéaire est en état d'alerte.
La suite du journal de Sophie Tussaud dans un court instant. De la prison a été requise contre le célèbre trompettiste de jazz Ibrahim Malouf. À tout de suite.
6h-9h, Bernard Poiret sur Europe 1.
Retour de l'info avec Sophie Tussaud et Bernard Poiret.
Sophie, Ibrahim Malouf était jugé hier donc pour agression sexuelle.
Le tribunal correctionnel de Créteil a requis une peine de 6 mois de prison avec sursis à l'encontre du célèbre trompettiste. Il avait embrassé une collégienne montpelliéraine et qui effectuait un stage dans son studio d'enregistrement en 2013. Pierre de Cossette.
Il n'a pas assez de mots pour exprimer son sentiment de culpabilité, Ibrahim Malouf. Oh, pas pour 2 agressions sexuelles qu'il conteste formellement, mais pour ne pas avoir su mettre de distance avec la jeune stagiaire de 3e venue pendant une semaine dans son studio de musique. Elle raconte un baiser appuyé, imposé à la sortie d'une projection cinéma, mais surtout 2 jours plus tard, une main sur les fesses et le mime d'un acte sexuel collé à elle dans le studio et devant la fille du trompettiste, 4 ans seulement. Lui répond que c'est l'adolescente qui lui a volé le bisou avant qu'il ne la repousse et emploie du temps à l'appui, tente de prouver que la version de la jeune fille ne tient pas debout. L'avocate de l'artiste fustige quant à elle une enquête de police qui a oublié les vérifications les plus élémentaires. Malouf se dit désolé de ne pas avoir su poser les limites, lui qui donne depuis 20 ans des cours à des élèves, mais promet ne jamais avoir été attiré par la jeune fille. Elle, qui avait commencé à se scarifier et à tomber dans l'anorexie, maintient sa version. Le procureur ne voit pas pourquoi elle aurait tout inventé. Il requiert de la prison avec sursis, 6 mois, soulignant la non-dangerosité du trompettiste.
Pierre de Cossette du service police-justice d'Europe 1.
Demain, normalement, le vainqueur de la route du Rhum, célébrissime course à la voile, devrait parvenir en Guadeloupe et franchir la ligne d'arrivée. Et d'autres, pendant ce temps-là, s'apprêtent à traverser l'Atlantique d'une autre façon, en tonneau.
Oui, c'est le pari fou d'un retraité de 72 ans. Il se prépare à parcourir près de 5000 km entre les îles Canaries et les Caraïbes. Le départ est prévu mi-décembre. Stéphane Place nous dit tout.
Visible de loin, puisque peinte en orange, dotée de hublots, c'est une barrique de 3 mètres de long et 2,10 mètres de haut, 2 stabilisateurs sur les côtés et à l'intérieur, une cabine de 6 mètres carrés avec une banette, un évier, un réchaud, une table à cartes. C'est à bord de ce drôle d'objet flottant que Jean-Jacques Savin, fringant septuagénaire, a décidé d'affronter l'océan Atlantique, de rallier les Caraïbes depuis les Canaries en se laissant porter par les vents et les courants.
C'est une barrique, il y a une quille, il est fait pour rester le cul au vent. Mais point de vue danger, les hommes. Ils prennent peut-être ça pour un mammifère marin qui viendrait troubler leur femelle. Enfin bref, ils aiment mettre des coups de butoir contre ces objets flottants, voire défoncer des coques de bateau. Donc j'ai renforcé jusqu'au-dessus de la ligne de flottaison. On a mis plusieurs couches d'époxy. C'est blindé. Puis en plus, je suis très léger. Je vais tourner autour de 600-650 kg. Pour eux, ce sera l'équivalent d'une balle de ping-pong.
Sponsorisé par une tonnellerie girondine, le coût global de ce projet avoisine les 60 000 euros. Jean-Jacques Savin va embarquer dans son engin flottant une amphore de vin, alors pas pour la boire, mais pour voir comment le vin vieillit dans ces conditions. La traversée devrait durer 3 mois. Arès, Stéphane Place, Europe.
Il y a quand même des gens extraordinaires, hein, comme ce monsieur Jean-Jacques Savin, qui dit avoir eu le déclic là, de sa traversée de l'Atlantique en lisant le bouquin d'Alain Bombard qui s'appelle « Naufragé volontaire ». Ceci termine le premier journal de la tranche avec Sophie Tussaud. Sophie, vous revenez à 7h sans faute.
Et à 6h10, c'est votre journal des sports avec Axel May.
Absolument, Axel, bonjour.
Bonjour.
Alors Axel, c'est un petit exploit tout de même qu'a réalisé le club de football de Strasbourg.
Eh bien, figurez-vous que le club alsacien a battu chez elle l'équipe de Lille, 2e du championnat de France de football. Lille avait jusque-là gagné tous ses matchs à domicile cette saison, que dis-je, battu. Score final 0-0, un match nul. Et l'entraîneur strasbourgeois Thierry Lothé s'en satisfait largement.
On aurait aimé pouvoir peser un peu plus offensivement durant cette rencontre, mais on ne peut pas non plus avoir le beurre, l'argent du beurre, la crémière, un pourboire et tout ce que vous voulez, quoi, vous voyez. Donc à un moment donné, il faut faire des choix, il faut prendre des options. Et nous, l'option qu'on avait prise, c'était d'essayer de boucher tous les espaces. Ce n'était pas glamour, je veux bien l'entendre. Ça nous a permis de bien les embêter et d'arracher un point. Je dirais arracher parce que les garçons ont vraiment fait beaucoup d'efforts. Et c'est pour ça que je les félicite beaucoup pour ça.
L'entraîneur de Strasbourg avec Sébastien Boé, suite de cette 13e journée de Ligue 1 à partir de 17h avec Lyon en déplacement à Guingamp. Et puis en Ligue 2, le leader Metz a battu hier soir 2-1 Châteauroux.
Et c'est la rentrée pour l'équipe de France de rugby.
Après une tournée de juin en Nouvelle-Zélande qui s'est soldée par 3 défaites en autant de rencontres, les Bleus débutent ce soir au Stade de France leur test match de novembre. Ils affrontent les très solides Sud-Africains qui n'ont plus battu depuis près de 10 ans. Attention aux défis physiques face à cette formation Springbok, prévient le 3e ligne Louis Picabol.
Aujourd'hui, il est quand même capable vraiment d'alterner beaucoup plus son jeu et d'être capable de trouver des solutions ailleurs. Mais ça reste quand même une équipe qui aime imposer un défi, qui aime marquer l'adversaire. Donc on sait très bien que ce défi-là, il va falloir, au-delà d'y répondre, imposer quelque chose.
Louis Picamol avec Simon Rubin, coup d'envoi de ce France-Afrique du Sud à partir de 21h.
Et après l'homme qui traverse l'Atlantique en tonneau, vous voulez nous faire découvrir un autre homme assez étonnant, un motard très particulier.
Il s'appelle Tom Pagès, double vainqueur cette année des East Games, l'équivalent des Jeux Olympiques des sports extrêmes. Ce pilote nantais est une star du motocross freestyle, autrement dit la moto acrobatique. Par exemple, il est capable d'effectuer une double rotation en l'air avec sa moto en lâchant le guidon. Et figurez-vous qu'un drone de course vient de le filmer au plus près, les sauts de Tom Pagès. Résultat, l'impression d'être dans un jeu vidéo.
Ça n'avait jamais été fait. Moi, c'est déjà ce que j'aime faire dans mon sport, c'est essayer d'innover. Et là, on était aussi novateurs sur la façon de filmer et sur ce genre de vidéo. Donc, c'était hyper intéressant. La plus grosse difficulté, c'était que moi, j'arrivais à entendre ce drone proche de mon casque et il fallait arriver à faire abstraction. Et là, pour la vidéo, j'ai dû refaire certaines fois les figures presque 10, 15, 20 fois, quoi. Donc, c'était très difficile.
Oh, mais la vidéo de Tom Pagès est disponible depuis ce matin sur le site d'Europe1.fr. On ira le voir tout à l'heure, hein, Justine, hein, sans faute, histoire de se faire peur. En fonction du timing restant, mais je vous en prie, allez-y, parlez de karaté.
J'ajoute ce mot de karaté, sport qui fera son apparition aux Jeux Olympiques en 2020. Les finales des Mondiaux ont lieu aujourd'hui à Madrid. Un seul karatéka français s'est qualifié en individuel, Steven D'Acosta, agent d'accueil à la SNCF dans la vie. Il s'est hissé en finale des moins de 67 kilos, combat en début de soirée, puis ensuite par équipe. Les Françaises, les combattantes françaises défendront leur titre mondial face aux karatékas japonaises.
Monsieur D'Acosta, faudra qu'il me dise à quel guichet il travaille. J'irai pas me plaindre du service de la SNCF auprès de lui. En tout cas, merci beaucoup. À tout à l'heure, dans une heure, pour un autre journal des sports.
À 6h13, vous vous réveillez avec Bernard Poirette sur Europe 1.